Bonjour, chers frères et sœurs qui nous rejoignez sur le net, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous apporter un petit message en complément de ce que notre frère Nicolas Savadogo a dit. Et voici ce que c'est. Je voudrais que nous fassions une première lecture dans Hébreux, chapitre 12 et verset 1, s'il vous plaît. Hébreux 12, 1. Vous savez que tout le chapitre 11 fait référence à des hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu et qui sont décédés et qui avaient une foi extraordinaire. Le chapitre 11 de Hébreux, c'est le chapitre sur la foi. Et pour terminer, enfin, il n'y avait pas de chapitre 11 et de chapitre 12 quand cette lettre aux Hébreux a été écrite. Ce sont les théologiens qui ont divisé ça en chapitres et en versets. Et donc, tout de suite après avoir parlé au sujet de tous ceux qui avaient la foi, il continue en disant « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il y a quelque temps en arrière, je vous ai parlé d'un fait que les religieux protestants ont voulu ignorer à cause des déviations de leur mère, l'Église catholique. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce sujet, car il me semble que certaines choses n'ont pas été bien comprises. Je vois ça parce que même dans notre communauté, personne ne semble vivre ces choses. Paul nous parle là d'un fait réel. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Les catholiques ont fait une déviation, ils ont appelé ça les saints, ils les prient, ils les invoquent. Enfin bon. Nous croyons dans les Écritures et non dans ces légendes et ces rajouts de l'Église catholique. Nous sommes réellement sur les Écritures, là. Alors, est-ce qu'on peut prendre Paul au sérieux? Enfin, si c'est Paul qui a écrit cette lettre. Sommes-nous réellement environnés? Ou est-ce que c'est une image que Paul donne ici, disant que beaucoup de témoins ont vécu avant nous et que leur témoignage nous environne? Ben moi j'ai vite vu, hein, c'est les témoins qui nous environnent, c'est pas leur témoignage. Que nous dit Jésus? Est-ce qu'on peut croire Jésus sur parole? Croyons-nous ce qu'il dit? Ou est-ce que nous croyons à ce que les églises dénominationnelles nous enseignent? Je voudrais qu'on fasse une lecture dans Jean 11, 26. C'est Jésus qui parle et qui dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est Jésus qui pose la question. Crois-tu cela? « Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Notre sœur Isabelle Lemot, qui est partie dans la gloire cette année 2014, est-elle morte? Non. C'est Jésus qui dit « Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Ma mère, qui est partie il y a quelques années dans la gloire, était une croyante. Est-ce qu'elle est morte? Non. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. T.L. Osborne, Daisy Osborne, Violette, Raphaël Duval, sont-ils morts? Non. Parce que Jésus a dit « Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il pose la question à la femme qui est là. Crois-tu cela? Et à vous, il a dit aussi, croyez-vous cela? Alors si je prêche ça dans les églises, tout de suite ils vont dire Amen! Puis après quand ils vont voir tout ce que cela implique, ils vont peut-être revenir à leur vieille croyance. Ouais. Croire cela, ça change obligatoirement la vision que les chrétiens évangéliques peuvent avoir sur la mort. Si un enfant de Dieu meurt et qu'on emporte son corps en terre, en vérité, cet enfant de Dieu n'est pas mort. Son corps, oui, mais lui, il n'est pas mort, lui. Il est toujours vivant. Quand un croyant meurt, Quand un incroyant, meurt, bon, là, c'est différent. Quand un incroyant meurt, son corps va dans la terre et son esprit va dans le séjour des morts. Il est mort. Parce que si tous ceux qui croient en moi ne meurent pas, ça veut bien dire ceux qui croient pas en moi meurent. Donc, il y a une différence. Si un mort, un croyant, revenait, eh bien, ça serait par les artifices du démon. Et il nous est interdit formellement de parler, d'invoquer les morts, d'essayer de les faire revenir. Ça porte un nom, c'est une science démoniaque qui s'appelle le spiritisme. C'est une abomination. Mais, depuis que Jésus est venu en tant que sauveur, ceux qui croient en lui ne meurent pas. C'est lui qui l'enseigne. Depuis que Jésus est mort, nous lisons dans Apocalypse 1, 18, qu'il tient les clés du séjour des morts. Il les tient, ça signifie quoi? Eh bien qu'il est le gardien, il en est le gardien, il est le gardien des clés du séjour des morts. Et qu'il fait avec ses clés ce qu'il veut. Même si ça fait, si ça contredit les doctrines évangéliques. Il fait ce qu'il veut, même si c'est en contradiction avec ce que les gens croient généralement. Alors, pensez-y. Jésus est sur la croix, en train de mourir. Il meurt. Il arrive dans le séjour des morts, où il nous dit qu'il a été prêché. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Eh bien, on va le lire. Matthieu 27, 52. C'est quelque chose qui... Personne n'enseigne ça, personne ne nous dit ces choses. Elles ne sont rétablies que depuis très peu de temps. Matthieu 27, 52, on le lit. On va le lire déjà un petit peu avant, au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qu'il venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Au moment où Jésus mourut sur la croix, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte à Jérusalem et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pas juste un bonhomme, plusieurs, qui étaient avec lui à la croix pour garder Jésus, tous ces gens qui étaient là et qui gardaient Jésus, ont vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, c'est-à-dire toutes les autres choses. Bon, ils n'ont pas vu le voile du temple se déchirer, c'était pas à l'endroit. Par contre, ils ont vu le tremblement de terre, ils ont vu les rochers qui se fendaient, ils ont vu les sépulcres s'ouvrir. Et ils ont été saisis d'une grande frayeur. Et ils ont dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Puis Jésus ressuscita quelques saints et leur permit d'apparaître à un grand nombre de personnes. Le texte dit donc, 1, que leurs tombeaux s'ouvrirent, 2, qu'ils ressuscitèrent pendant ce tremblement de terre, et 3, ils ont attendu à l'intérieur des sépulcres pour ne sortir qu'au moment où Jésus sortirait de son sépulcre, de son tombeau. Ça, c'est ce qu'on lit quand on lit attentivement. Alors moi, je suis allé là-bas et j'ai vu l'endroit du Golgotha, j'ai vu, il y a la tombe, elle est tout près du jardin, elle est tout près de Golgotha, il y avait la tombe là, de Jésus qui était là, il y avait d'autres. Et ils ont vu, le centenier a sans doute vu les tombes s'ouvrir. Ça l'a impressionné terriblement. J'ai vu cet endroit. On peut lire Jean 19, 14, si vous voulez bien. Jean 19, 14. 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation. Il y avait un cimetière qui était là, dont une tombe qui n'avait pas été utilisée encore. Mais c'est là qu'ils ont mis Jésus. Donc ce centenier l'a vu, les tombeaux s'ouvrir, il a vu tout ça. À quoi ça a ressemblé aux yeux des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts? Parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, des religieux qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Eh bien, il y avait ces incrédules, et puis les ignorants religieux qui ne connaissent pas bien les Écritures, qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, qui ne savent rien du tout. Eh bien, ils crurent que c'était diabolique. Ils ont vu des morts qui se baladèrent à Jérusalem. Puis les autres, les croyants, ils ont loué Dieu qui avait donné les clés du séjour des morts à Jésus. Et quand Matthieu a écrit son évangile parfait, qu'est-ce qu'il dit? Il manifeste sa foi en Jésus le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant partout, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, nous dit l'apôtre Paul, Philippiens 2, 10. C'est-à-dire que Jésus est le Tout-Puissant dans le séjour des morts, Philippiens 2, 10, sous la terre. Ça ne veut pas dire dans le métro. Il est Tout-Puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? La raison de cette étude est de savoir si oui ou non nous croyons que Jésus a les clés du séjour des morts. La deuxième, c'est si oui ou non c'est lui qui a ressuscité avant l'heure certains saints. La troisième question, c'est est-ce que c'est du spiritisme d'avoir fait monter ces morts? La quatrième, est de savoir si oui ou non il a le droit de faire ce qu'il veut du pouvoir qu'il a dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi un disciple de Jésus ne pourrait-il pas apparaître puisqu'il n'est pas mort? C'est les morts qui ne doivent pas apparaître. Mais un disciple de Jésus n'est pas un mort, même s'il vous paraît mort. Ne pas croire ces choses-là, ça peut être autre chose que de la malhonnêteté, de l'obstination, ça peut être tout simplement un manque de connaissance, un manque de révélation, tout simplement un manque de réflexion concernant les textes bibliques qui ne sont jamais enseignés. On ne peut pas blâmer ces braves chrétiens de ne pas savoir ces choses, puisque leur pasteur ne les enseigne pas. Si on peut les blâmer un peu, parce que s'ils lisaient, ils s'en apercevraient. Enfin bon. Ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, je prie pour que vous ne vous bloquiez pas, mais que vos cœurs soient ouverts à une saine réflexion sur ces textes des Saintes Écritures et que vous ne cherchiez pas à vouloir avoir raison, tout simplement parce que c'est moi qui dis une chose, vous allez dire le contraire. Soyez sérieux devant Dieu, ces textes sont là, dans votre Bible, vous ne pouvez pas les enlever. Ils sont là et ils sont aussi saints que Jean chapitre 3 et verset 16 et que tout le reste de la Bible. Alors, on est environné de tous ces saints. Eh bien, ça fait quoi ça? Ça nous aide en quoi? Eh bien, ça nous aide, il nous dit là, l'apôtre, Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, l'erreur qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quelle est la carrière qui vous est ouverte? Courez! Si vous croyez en Dieu qui vous a parlé, eh bien, faites ce qu'il vous a dit. Montrez que vous croyez. Ne vous contentez pas de simplement dire « Oui, je crois !» Croyez et vivez les choses. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a tout pouvoir. Est-ce que vous croyez qu'il a tout pouvoir ? Si vous croyez qu'il a tout pouvoir et qu'il vit en vous, vous avez tout pouvoir en son nom. Rien n'est impossible. Mais encore faut-il croire. Et ensuite, une fois qu'on croit, faut-il agir en conséquence et assumer sa croyance. Je pense que vous devriez vous asseoir confortablement et vous détendre. Et puis, méditez ces choses que je vous ai dites. Pendant que vous les méditez, sentez comment la vie est bonne. Jésus a dit « Je suis la vie ». Sentez comment la vie est bonne. Laissez votre cœur libre, au-dessus et au-delà de la mesquinerie, des problèmes. Et puis, chantez un petit cœur, quelque chose de tout simple. « J'aime Jésus de tout mon cœur ». J'aime Jésus de tout mon cœur, j'aime Jésus de tout mon cœur, car il est mon sauveur. Et vous chantez encore doucement. Et puis pendant que vous chantez comme ça, en pensant à ce que je vous ai dit, imaginez que votre cœur grandit et remplit la chambre où vous êtes et puis toute la maison avec ce flot de l'Esprit qui est en vous et qui coule jusque dans la vie éternelle. Ce flot qui coule de votre cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui remplit tout. Quand tu vas arriver à ce point, il faut que tu ressentes la présence amicale de tous ces témoins qui t'entourent. Sois bien certain qu'ils sont là. C'est écrit dans la Bible, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Il te sourit. Représente-toi ces gens qui ont vécu puis qui maintenant savent, connaissent comme ils ont été connus. Et ils voient ta petitesse, tes doutes, tes petites mesquineries, tes petits machins, tes petites... Approche-toi et dans la foi et puis laisse-toi bénir. Laisse le Seigneur Jésus te bénir. Garde les yeux fixés sur lui en disant « Seigneur, je crois. Je crois dans cette manifestation de l'amour supérieur qui est au-dessus des batailles du quotidien mais qui me renforce. » Qui me donne la vigueur, qui me donne l'énergie, qui me donne la paix pour courir dans la carrière qui m'est ouverte. Conserve le plus longtemps possible cette impression de ce fleuve qui coule de ton cœur jusque dans l'éternité. Ton cœur est ouvert, il répand de l'amour, il répand de l'amour. Et puis reviens à la réalité tout simplement. Et puis, que ta vie soit une louange. Que ton existence soit une louange. Donne la preuve de ta foi. Donne la preuve de ta foi en embrassant la vie à fond. En disant, oh Jésus, je sais que tu m'aimes, tu ne me tromperas pas. J'ai confiance en toi, je vais courir dans cette carrière qui m'est ouverte et je vais le faire. Je vais le faire, je crois que c'est vrai, je vais le faire. Et il sera avec toi, parce qu'il a dit qu'il est avec ceux qui ont la foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage avec les quelques mots que je vais te dire. Amen. Jésus, merci de garder le cœur de mes frères et sœurs fort dans la foi et dans l'amour. Merci, Jésus. Amen. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Eh bien, nous ne voulons pas les décevoir. Ils ont une foi tellement extraordinaire et ils nous regardent. Eh bien, je veux pas qu'ils soient déçus en disant « Ah bon, c'est que ça, Michel Janton ?» Non, je veux qu'ils soient fiers de moi. Et quand je rentrerai dans le royaume de Dieu, je sais qu'ils m'accueilleront. Seigneur Jésus, je te remercie, mon Seigneur. Je serai accueilli parmi tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont eu la foi et qui ont fait les choses, qui n'ont pas simplement dit « Moi, je crois à cette doctrine, moi, je crois à celle-là. » Non, ils ont agi sur leur foi, ils ont fait les choses, des belles choses pour aider les gens, bénir les gens. Merci Jésus d'aider chacun de ceux qui m'écoutent. Amen. Amen. Au revoir. Dieu vous garde.